Le point de départ de ce livre, en fait, c'est des billets publiés sur mon blog, donc hébergé chez Alternative Économique, il y a une demi-douzaine d'années. Qui sont, ce blog, c'est une sorte de carnet où j'annote des idées, des réflexions de manière très libre. Hein, c'est l'intérêt d'un blog. Et puis, avec ces petits billets, je me suis retrouvé invité pour les développer, pour en parler, que ce soit sur France Culture ou aux 50 ans de l'INRIA. Et je me suis dit, tiens, ça vaut le coup. Du coup, ces petites bribes de réflexion, elles intéressent des gens qui sont à la fois grand public et aussi des spécialistes de l'informatique, comme l'INRIA. Ça vaut le coup d'essayer de développer ça. Et c'est comme ça que le livre est né, en fait. Donc, qu'est-ce que je développe dans ce livre et où est-ce que je me situe? Il y a deux auteurs que je prends souvent pour essayer de positionner un peu mon propos. C'est un peu, je caricature évidemment un peu leur vision, mais ça permet de voir où j'essaie de me situer. Je dirais qu'entre une technophilie béate un peu à la Rifkin et puis une technocritique très extrême ou forte à la Biwix, j'essaie de me tenir sur une ligne de crête entre les deux. Ces deux points de vue, donc Rifkin, c'est qui? C'est un prospectiviste économiste américain qui a écrit « La troisième révolution industrielle ». Et si je résume son propos, il développe dans son livre l'idée que transition numérique et écologique irait de pair presque naturellement. Les énergies renouvelables se développent. On numérise l'ensemble du monde avec l'Internet des objets. Et tout ça va concourir à rendre notre société plus soutenable. Parce qu'on va optimiser le parc de bâtiments, parce qu'on va optimiser les camions en circulation, on va mieux les remplir, parce qu'on va être capable de mieux utiliser les énergies renouvelables en les utilisant au bon moment. Le soleil, il n'y en a pas tout le temps, le vent non plus. Et du coup, si on déplace, on pilote un peu mieux notre consommation grâce au numérique, c'est plus facile de les intégrer. Donc, c'est quelque part ce que je pourrais appeler une sorte de déterminisme technique. En gros, il y a des choses qui se passent dans la sphère technique qui font que naturellement, notre mode de vie va être plus soutenable. À l'opposé, on a des auteurs comme Philippe Biwix qui a écrit L'âge des low-tech, ou Éloi Laurent, qui est, donc Philippe Biwix qui est ingénieur, ou Éloi Laurent qui est économiste à l'OFCE notamment, qui ont pu avoir des positions très fortes en disant il faut qu'on se passe du numérique, parce que le numérique il nous détourne, que ce soit en termes de réflexion politique, mais aussi de capture de l'attention, il nous détourne des vrais sujets qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment les sujets sociaux, sanitaires et écologiques. Et donc, il faut qu'on se passe du numérique. Moi, je pense qu'en 2021, maintenant, en Occident, notamment en France, on ne peut pas se passer du numérique. Ça peut être regrettable, hein, mais de la même manière, je viens du monde de l'énergie. Je ne suis pas un spécialiste du numérique, je suis plutôt un spécialiste de l'énergie. Et donc, je fais souvent des analogies avec le monde de l'énergie ou de la mobilité et le numérique pour essayer de voir comment des choses qui ont été faites dans d'autres domaines nous permettent de penser le numérique. Et donc, pourquoi je pense qu'on peut pas se passer du numérique? Il me semble que ça revient au même que de dire il faut se passer de la voiture. Vous voyez, quand dans un pays comme la France, on a construit, aménagé le territoire depuis 70 ans avec des zones industrielles qui s'étalent, avec des lotissements qui prennent de plus en plus de place et qui rendent dépendants de la voiture, vous pouvez pas dire aux Français il faut se passer de la voiture en 5 ans, par exemple. On peut imaginer à très long terme une société qui serait beaucoup moins dépendante de la voiture. On peut dire rapidement qu'il faut sortir la voiture des centres-villes, parce que c'est de la congestion, c'est de la pollution, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il faut se passer de la voiture. Et je pense que c'est la même chose avec le numérique. Le cœur du sujet, c'est de dire où est-ce qu'on pose des limites, où est-ce qu'on exclut le numérique, parce que l'idée de dire qu'il en faut partout, tout le temps, pour tout le monde, c'est encore largement partagé, mais je pense que ce n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques, comme il y a quelques années, on disait la voiture, il en faut partout, tout le temps, pour tout le monde. Hein. C'était la célèbre phrase de Pompidou, il faut adapter la ville à la voiture. On voit bien aujourd'hui que ça ne marche pas. Si on est tous tout seuls dans notre voiture en même temps dans la ville, ça ne marche pas. Et bien avec le numérique, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il nous faut penser maintenant des mécanismes de régulation, définir des limites et des seuils que jusque-là, on ne s'est jamais vraiment posé. Donc voilà où j'essaie de me situer sur cette ligne de crête. Vous voyez, entre le numérique va tout résoudre et il faut se passer du numérique. Donc une fois ceci dit, quel est le constat que je pose avant de terminer mon temps d'intervention sur les pistes et qu'on pourra discuter ensuite plus en détail ensemble. Ce que j'essaie de faire tout d'abord dans mon ouvrage, c'est de montrer ce qu'est la matérialité du numérique. Je pense que collectivement, on a cheminé. Mon ouvrage est paru il y a 2 ans hein, maintenant, presque. Je pense qu'on a cheminé collectivement et qu'aujourd'hui, on a compris que le numérique, ce n'était pas immatériel, ce n'était pas sans impact et poids environnemental. Mais c'était encore une vision qui était largement dominante il y a une demi-douzaine d'années. C'est encore le cas dans certaines sphères, hein, mais on parle de dématérialisation, on parle de cloud, de nuages de données. Vous voyez, tout ça est très léger et très immatériel. Alors que derrière tout ça, en fait, il y a des réseaux, il y a des câbles sous-marins, il y a des data centers, il y a des terminaux, il y a des montagnes de déchets numériques maintenant, qu'on recycle et qu'on récupère très mal. Et cette sémantique, cette terminologie utilisée, selon moi, elle cache toute cette infrastructure et toute cette matérialité. Et cette matérialité, elle pose problème à plein d'égards, parce que, vous voyez ici, c'est le travail d'un plasticien que j'ai repris, qui était présenté à la braderie de l'art à Roubaix en 2019. Ben derrière, la petite pomme, en fait, y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à recycler qu'une feuille de papier. L'idée, que le numérique, c'était dématérialisé et que c'était mieux pour l'environnement, et ben aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué et controversé. Je ne veux pas dire que c'est toujours pire, mais en tout cas, pour illustrer ce point de départ, et pour que vous ayez ça en tête dans la réflexion, vous voyez là, on a des feuilles de papier qui ont nécessité d'utiliser des arbres, mais tout ça est intégralement recyclable. On le met dans le bac jaune, ça va partir dans des centres de tri, et de ce papier, on sera capable de refaire du papier. Les équipements que j'ai là, cet ordinateur, mon smartphone, c'est des choses qu'on ne sait pas intégralement recycler. Donc vous voyez qu'on va substituer une ressource qui nécessite d'utiliser des arbres, effectivement, donc la question de la forêt peut se poser, mais on a des ressources qui sont intégralement recyclables, qu'on substitue par des ressources auxquelles on accole le terme de dématérialiser, qu'on sait très mal recycler, et qu'on recycle, et qu'on récupère et qu'on recycle de fait très mal. Donc c'est ça le premier point de mon analyse, c'est essayer de casser un peu ces intuitions qu'on a, que le numérique serait forcément mieux que les autres manières de faire qu'on a habituellement, qui peuvent être parfois beaucoup plus vertueuses d'un point de vue environnemental. Et dans les propositions, on le développera après, mais selon moi, c'est un point important, c'est arrêter de présupposer que qui dit numérique dit bénéfice pour l'environnement. Ça peut être le cas, mais c'est loin d'être systématiquement le cas. Et pour comprendre un petit peu pourquoi le numérique en fait, pose des questions d'une complexité et d'une intensité totalement nouvelles, vous voyez ici l'illustration de l'évolution des systèmes techniques de nos sociétés, résumée en quelques matériaux utilisés, où on est passé il y a 2-3 siècles à une dizaine de matériaux principalement recyclés, à aujourd'hui des équipements techniques, comme un smartphone, qui contiennent entre 50 et 60 composants différents. Et là, vous percevez à quel point, du coup, on produit des objets qui sont d'une technicité et d'une ingéniosité absolument considérables. À bon essaim ou pas, ça peut se discuter. Mais du coup, des objets aussi qui posent des questions absolument considérables en termes de volume de données, de matières consommées et de diversité de composants utilisés. Et pour illustrer ça très, très crûment et de manière assez parlante, une phrase que j'aime bien de Biwix, c'est, que je citais tout à l'heure, « Plus on est high-tech, moins on est recyclable ». L'exemple très concret derrière tout ça, vous comprenez bien que recycler quelque chose comme ça avec 60 composants à l'intérieur, c'est extrêmement plus difficile que de recycler une bouteille de lait, pour faire trivial. Ou une bouteille de verre, etc. Où on a du monomatériau qu'on sait facilement réutiliser, voire avec le verre qu'on sait intégralement réutiliser, donc avec des pertes très faibles. Là, on a des objets extrêmement techniques, avec une diversité de composants très différents. Et quand on va vouloir recycler ces composants, qui nécessitent des pertes à chaque phase de recyclage. Donc ce poids environnemental, si on essaie de le résumer et de donner quelques ordres de grandeur un peu marquants, quand on parle du numérique, l'objet ordinateur, l'objet smartphone tout seul, il ne dit rien de l'impact. Pourquoi ? Parce que le smartphone, s'il n'est pas connecté, il ne fait rien. Si l'ordinateur n'est pas connecté, il ne fait rien. Donc c'est l'ensemble de l'infrastructure numérique qu'il faut essayer de penser. Et il y a un bon article sur le journal du CNRS qui était intitulé « Le grand gâchis énergétique » qui résume bien ça. Vous avez trois grandes catégories d'équipements dans cette infrastructure numérique. On va partir de ce qui vous est le plus familier. Vous avez le smartphone ou l'ordinateur. Ça, c'est ce avec quoi vous interagissez. Derrière, il y a les réseaux. Et enfin, encore plus profond, disons, il y a les data centers ou les serveurs. Et quand on fait une analyse globale de ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, c'est tout ça qu'il faut essayer de considérer. Parce que les objets, indépendamment les uns des autres, ne fonctionnent pas. Un data center, dans l'absolu, il ne sert à rien. Il va être utilisé par rapport aux applications, aux sollicitations qu'on lui envoie avec nos smartphones, nos ordinateurs, des objets connectés, etc. Des réseaux tout seuls, pareil, ils ne servent à rien. Donc c'est bien ces différentes briques de l'écosystème numérique qu'il faut essayer d'évaluer ensemble. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'impact énergétique, il se répartit à peu près à un tiers sur ces différentes composantes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand on évalue du coup l'objet isolément, le smartphone, le modem, un écran télé, etc., on fait ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie. Et ce que les analyses de cycle de vie nous permettent de voir, c'est que par rapport à des objets courants comme une chaudière, comme une voiture, l'impact, il n'est pas du tout dans les mêmes phases de l'objet. Dans une analyse de cycle de vie, on regarde la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Une voiture, l'impact principal, c'est quoi intuitivement ? Justement, ce n'est pas la fabrication, c'est l'usage. 80-90% de l'impact d'une voiture, c'est le fait de consommer du carburant pour se déplacer. Et pourquoi c'est l'usage qui est aussi déterminant ? Parce que la voiture, en fait, on la garde extrêmement longtemps. On la garde en gros 15 ans. C'est la moyenne en France. Hein. Au bout de 15 ans, la voiture sort du parc et elle n'est plus utilisée. Le smartphone, c'est le rapport inverse. Là, la fabrication, c'est l'impact principal de l'ordre de 80%. Ça dépend des impacts qu'on évalue, mais si on s'en tient au gaz à effet de serre, c'est à peu près ça. Pourquoi ? Parce que la complexité que je vous évoquais tout à l'heure, tous ces composants, ces matériaux, ces minéraux, c'est des mines en amont qui nécessitent des processus d'exploitation extrêmement énergivores. Ensuite, il y a des processus de production, de raffinage, de transport dans des chaînes qui sont très mondialisées, globalisées. Et donc, l'impact du smartphone, c'est d'abord sa fabrication. Et notamment parce que le smartphone, on ne le garde que 2 ans. En moyenne, en France, la durée de vie d'un smartphone, c'est moins de 2 ans. Si on le gardait 15 ans, par exemple, comme la voiture, on serait dans un rapport qui serait tout autre. Et c'est pour ça qu'une des premières pistes pour réduire fortement l'impact environnemental du numérique, c'est prolonger la durée de vie des équipements. Et d'une, parce qu'on les récupère mal, on sait mal les recycler, et de deux, parce que l'impact, c'est d'abord la fabrication. Et donc, vous voyez, quand on a ces ordres de grandeur-là en tête, ça permet tout de suite de dire que évaluer l'impact du numérique, c'est plus compliqué qu'une voiture, parce qu'il ne suffit pas de regarder combien de litres de carburant on a consommé, il faut regarder à l'échelle mondiale, comment le système numérique fonctionne, où est-ce que le néodyme il est extrait, où est-ce que l'indium il est extrait, quels sont les processus de raffinage qui sont utilisés, en fin de vie, comment le téléphone est récupéré, recyclé, etc. C'est tout ça qu'il faut apprécier pour être capable de dire quelque chose sur l'impact du numérique. Et donc, c'est plus compliqué que les autres objets classiques de notre quotidien. Ça, c'est l'illustration de ce que je viens de vous dire, en fait, où vous voyez sur quelques équipements, donc sur la gauche, vous avez une télévision, un ordinateur portable, un ordinateur fixe, des écrans, etc. Vous voyez comment se répartissent les impacts sur les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie. Et donc, ce qui est en bleu, vous voyez, c'est l'impact matière première. Sur la plupart des objets qui sont représentés ici, donc, c'est là-dessus qu'on va trouver en fait, l'impact le plus important. Et l'impact utilisation, c'est l'orange clair. Vous voyez, selon les objets, on va osciller entre 10 et 20%. Ça, c'est une étude de 2018 que vous retrouvez sur le site de l'ADEME, si vous souhaitez. Et donc, une fois qu'on a posé cet impact, ce bilan sur l'impact environnemental du numérique, il me semblait, pour être honnête, nécessaire de regarder aussi l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire, pas regarder que le fardeau que le numérique présente, Et ce fardeau, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, à peu près 10% de la conso d'électricité. Donc c'est pas rien, en effet. Mais ça nous permet de faire des choses. Et des choses qui sont possiblement plus intéressantes que la manière dont on les faisait avant l'utilisation du numérique pour la transition écologique. Pour illustrer ça, je prends un tableau de Pierre Soulages qui travaille sur le noir, comme vous savez, mais qui dit en fait ce qui m'intéresse, c'est pas le noir, c'est ce que le noir fait à la lumière. Et c'est, toute proportion gardée, ce que j'essaie un peu de faire avec le numérique. C'est pas le numérique en tant que tel qui m'intéresse, dont on a beaucoup parlé jusque-là, mais dans une réflexion prospective, c'est ce que le numérique permet de faire, ou ce que le numérique fait à la société. Comment on peut se déplacer différemment en utilisant le numérique plus intelligemment? Comment on peut se loger, comment on peut produire, comment on peut consommer différemment grâce au numérique? C'est l'autre côté de la médaille. C'est en gros regarder comment le numérique est objectivement aujourd'hui un fardeau, comment il pourrait être plus un levier pour la transition écologique. Et c'est en ça que j'essaie de tenir cette ligne de crête que j'évoquais au début, parce qu'il me semble qu'il faut regarder les deux côtés. Un exemple pour illustrer ça très concrètement, vous voyez, on parle souvent du poids du numérique qui rajoute des objets. Ici, c'est les ventes d'appareils photo. Et bien que vous voyez en fait qu'avec l'apparition des smartphones, les appareils photo numériques se sont effondrés. En fait, les seuls appareils photo qu'on continue à vendre aujourd'hui, c'est des appareils photo réflexes, qui sont des appareils photo d'amateurs éclairés ou de professionnels. Et donc, juste pour illustrer que le numérique en fait, ne rajoute pas toujours des objets en plus dans notre quotidien, il peut aussi en supprimer. Quand on a des objets, par exemple, comme le smartphone, qui sont d'une complexité et d'une polyvalence, du coup, assez considérable. Donc voilà un peu posé le point de départ et l'analyse que je développe dans mon ouvrage. Et ensuite, donc avant d'aller sur les pistes propositions, comment j'essaie d'articuler et de penser les deux dynamiques qui sont les dynamiques fondamentales aujourd'hui, selon moi, choisies pour une et subies pour l'autre. La transition énergétique et écologique, je la définirais comme subie parce qu'on n'a pas le choix quelque part. Là où on en est aujourd'hui, si on ne veut pas totalement détruire la capacité de l'atmosphère à maintenir une température vivable, si on ne veut pas détruire totalement des écosystèmes locaux et des composantes entières de la biodiversité, il nous faut réaliser cette transition écologique. Et c'est en cela que je dis qu'elle est subie. Parce qu'on a évolué, produit, consommé de telle manière qu'on est ce qu'on appelle dans l'anthropocène, on est dans une ère géologique où en fait l'homme est devenu une force de transformation de l'environnement à part entière. Donc en ça, elle est subie. Mais ça reste, cette transition écologique, un but. C'est pas un outil. Ce ne sont pas des moyens. Et de l'autre côté, on a la transition numérique, qui est une autre grande dynamique de transformation, aujourd'hui à l'œuvre dans notre société. Mais pour le coup, c'est pas une finalité. Et selon moi, c'est important de bien repositionner cela. Ces deux transitions ne sont pas du tout au même niveau. Il y en a une qui est incontournable, la transition écologique, et il y en a une autre qui est tout à fait optionnelle, la transition numérique. Rien ne nous impose de coller du numérique partout, dans nos voitures, dans nos maisons, sur nos vélos, sur nos frigos connectés, les toilettes connectées. Enfin, aujourd'hui, tout peut se connecter. Fondamentalement, à quoi ça sert? C'est juste des outils supplémentaires qu'on choisit d'utiliser ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas une finalité. Et il me semble que c'est vraiment un point central aujourd'hui, c'est de remettre les choses à leur place. Arrêtez de dire que les deux vont de pair systématiquement, les deux vont pas de pair systématiquement, comme on l'a vu, le numérique c'est aujourd'hui surtout des impacts supplémentaires en plus. Et par contre, si on partage le fait que la transition écologique c'est bien une finalité commune qu'on doit atteindre et qu'on doit réaliser, de manière assez rapide, on peut remettre le numérique à sa place et l'utiliser, je pense, de manière beaucoup plus raisonnée et efficace. Quand je dis la transition énergétique, on doit la réaliser dans un temps assez rapide. Deux mots pour illustrer ça. Si on restreint la transition écologique à la question climatique, ce qui n'est pas la seule, mais qui est quand même une des grandes composantes aujourd'hui, ce que le GIEC nous dit dans son rapport de 2018, suite à l'accord de Paris, c'est si on veut rester sous les 1,5 degrés, donc c'est ce qu'on a signé à l'accord de Paris en 2015, il faut qu'on atteigne la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle à peu près, 2050-2060. Donc la neutralité carbone, ça veut dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes sont capables de récupérer. Les océans, les zones littorales, les forêts, les sols, etc. Donc ça, c'est l'objectif à long terme. Mais surtout, ce qui est plus important selon moi, le GIEC nous dit dans ce même rapport qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas que le point d'arrivée, c'est les dynamiques à enclencher très rapidement. Et c'est le fait qu'en 2030, il faut diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est... 2030, c'est demain, en fait, hein, à l'échelle du système énergétique. Donc, quand on a ça en tête, on voit bien quelle est la rapidité et la radicalité de la transformation à réaliser. Ce n'est pas un truc où il faut gagner 10 ou 20% en un siècle. Non, il faut effacer totalement les émissions de gaz à effet de serre en 30-40 ans et il faut les avoir divisées par deux en 10 ans. Donc, la question, ça va être en quoi le numérique il nous est utile à ça. S'il ne répond pas à ça, en fait, c'est clairement un outil qui continue à se situer du côté des problèmes et des fardeaux, et pas du côté des solutions. Et pour penser les solutions, il faut vraiment avoir ces ordres de grandeur-là en tête, quoi. J'insiste sur, et dans une logique vraiment d'objectiver les atouts du numérique, j'insiste sur ce que le numérique nous permet de faire. En fait, il y a plein de cas où aujourd'hui, le numérique nous permet d'être plus efficace. Dans l'agriculture, dans le chauffage des bâtiments, la mobilité, les systèmes industriels, la production, mais aussi dans les smart grids, le numérique nous permet de produire mieux, de consommer moins. Mais quand on regarde les études qui ont été faites sur ces systèmes techniques-là, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur des ordres de grandeur que je viens de vous donner. Donc, divisé par deux l'impact environnemental en 10 ans. Hein. En gros, retenons cette formulation un peu simplifiée, mais qui permet de synthétiser l'ambition. Je prends l'exemple du chauffage d'un bâtiment. C'est facile de déployer des capteurs et un pilotage numérique de votre maison. On a quelques études qui montrent qu'on peut économiser de l'ordre de 20 à 30% en utilisant le numérique dans les bâtiments. C'est pas rien. En gros, on va piloter le chauffage, baisser la température quand vous n'êtes pas là. Il va y avoir des routines avec une automatisation. Les capteurs repèrent quand vous sortez le matin, à quelle heure vous revenez le soir. Donc le système de chauffage va être optimisé. Sauf que optimiser une passoire thermique, on est d'accord que ça n'a aucun sens. Si vous avez un logement qui consomme 300-400 kWh par mètre carré par an, qu'est-ce que ça veut dire d'optimiser ce truc-là pour gagner 30 ou 40 kWh par an ? Si vous prenez les choses dans le bon sens et dans les pistes et les propositions qu'on va discuter après, c'est vraiment essentiel pour moi de mettre les choses dans le bon sens et de ne pas dire on peut grappiller des choses un petit peu comme ça et ça va bien se passer au final. Si on prend les choses dans le bon sens, qu'on isole d'abord son logement, qu'on change son système de chauffage pour un système plus efficace, avec un meilleur rendement, qu'on utilise des énergies décarbonées ou voire renouvelables, et qu'ensuite, on pilote avec le numérique, mais à la toute fin, vous voyez, pas au début. Si on fait tout ça, on va diviser par 5 ou 6 la consommation d'énergie du logement. Donc on ne va pas gagner 10 ou 20%. Et là, on est au rendez-vous des enjeux que je vous donnais tout à l'heure, avec en plus des effets vertueux sur plein de plans, parce que travailler d'abord sur l'enveloppe du bâtiment, parce que intégrer d'abord les logiques de sobriété en se questionnant sur les besoins de mètres carrés, de ressources, etc., on va avoir plein de co-bénéfices plutôt que de déplacer les problèmes sur d'autres parties du système. Mais ça, ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est de dire on met du numérique un peu partout et puis ça permet d'optimiser les systèmes en place. Mais selon moi, optimiser les systèmes en place, dans beaucoup de cas, c'est pérenniser des systèmes qui ne sont pas soutenables. Le système énergétique, il faut le transformer. Il ne faut pas faire 10 ou 20% de mieux. Il faut le décarboner intégralement en 30 ans. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Le risque, c'est justement en ayant cette utilisation un peu saupoudrée ou en tout cas du numérique qui n'est pas mobilisé dans une optique claire, de perdre du temps dans la transformation structurelle qui est à réaliser. Et donc, au-delà de cette de cette optimisation des systèmes en place. Je liste en plus dans mon ouvrage toute une partie de cas, d'exemples, où en fait le numérique, en plus, il ne fait pas que optimiser. Si optimiser, c'est en gros la bonne face de la médaille. Mais il y a un tas de situations où le numérique continue à accentuer son poids environnemental plus qu'à résoudre les problèmes. Quelques exemples ici illustrés. Aujourd'hui, notamment avec l'Internet des objets, mais d'abord avec la vidéo, c'est vraiment le facteur de croissance primordial. On a des volumes de données transités sur les réseaux, sur les data centers, qui explosent dans des proportions considérables. C'est ce qui justifie la 5G, notamment. La 5G va permettre de consommer 10 fois moins d'énergie par volume de données transitées. Sauf que vu que l'idée, ce n'est pas de consommer pareil, voire moins, on ne va pas faire 10 fois plus d'économie d'énergie. On va accompagner en fait une croissance exponentielle de données. Parmi les autres points négatifs, il y a ce que j'appelle ici, de manière un peu ironique, la disruption permanente. C'est l'exemple un peu des trottinettes. Les trottinettes, ça peut être des très bons outils si, en gros, plutôt que d'avoir des gens qui sont tout seuls dans leur voiture qui fait 2 tonnes, se déplacent sur leur trottinette. En pratique, ce qu'on observe, c'est plutôt que les gens qui viennent sur ces objets-là, il y a des études qui ont conduit, notamment par le bureau d'études cité, les gens qui viennent sur ces trottinettes connectées, c'est plutôt des personnes qui étaient dans les transports en commun. Donc en fait, on met à mal des solutions qui étaient à un certain équilibre, qui avaient trouvé un système, avec des outils qui, aujourd'hui, sont développés dans une logique plus d'accentuer les problèmes que de résoudre les problèmes de mobilité urbaine. Même si, comme je le dis, les trottinettes peuvent être des objets de mobilité douce extrêmement intéressants, mais ce n'est pas vraiment les logiques dans lesquelles elles sont développées, notamment parce qu'on a des stratégies des opérateurs qui développent massivement, qui essaient d'inonder les marchés, de mettre les pouvoirs publics devant le fait accompli, plutôt que de négocier avec eux des politiques de mobilité plus soutenables. On a ce que j'appelle des innovations hors sujet. Je vous citais tout à l'heure les toilettes connectées. C'était au Consumer Electronics Show de Las Vegas il y a 1 an ou 2. Enfin, on peut se demander où est-ce que ça va s'arrêter, quoi, et quel est l'intérêt d'avoir ce genre d'objet que très très probablement on ne recyclera jamais, si tant est quelqu'un l'achète un jour. Parce que reste à se demander quand même s'il y a des gens qui vont trouver un quelconque intérêt à ces équipements-là. Et puis, il y a même des situations pires où, plus que de continuer à accroître son poids environnemental, ce que j'appelle la tricherie organisée, par exemple ici, que je développe dans mon livre, c'est le cas des logiciels truqueurs. C'est les fabricants automobiles qui avaient utilisé le numérique pour passer les tests sur bande d'essai de leurs véhicules en trompant les mesures effectué en mettant sur le marché des véhicules en fait qui polluaient plus que ce qu'ils étaient censés réaliser. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout numérique au service de la transition écologique. On est le numérique qui est utilisé comme boîte noire pour construire des systèmes techniques qui permettent de gruger le régulateur et de mettre sur le marché des objets qui ne satisfassent pas aux conditions environnementales. Donc, le numérique, en résumé, il peut permettre d'optimiser plein de choses, optimiser les systèmes techniques, ce n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Et dans une grande partie de cas, le numérique, il continue à être plutôt un problème qu'une solution. Je vous propose d'en venir aux pistes maintenant, que je développe en 3-4 points. On peut peut-être prendre une minute ou deux sur la partie constat déjà. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez que j'éclaire, qui n'étaient pas forcément précis, ou que vous voulez que je développe un petit peu?
Dans le constat, est-ce que, avant d'aller sur les pistes, sur l'éducation, vous avez regardé un peu sur l'éducation au numérique?
Alors, non, mon prisme d'entrée, c'est vraiment la matérialité et la question... environnementale. Il y a plein d'autres sujets qui sont posés par le numérique aujourd'hui, celle du respect des libertés individuelles, la manipulation de la démocratie avec des scandales comme Cambridge Analytica, le poids des réseaux sociaux sur les élections, etc. L'éducation aussi, En gros, est-ce que donner des tablettes à des enfants qui ne savent pas encore lire, c'est la priorité? Bon, ça, ce n'est pas des sujets que j'explore parce que ce n'est pas mon cœur de métier et d'expertise, mais c'est des sujets qui sont cruciaux, notamment parce que le numérique, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une brique technique, c'est un écosystème complet. Et donc, ces questions-là se posent. Mais bon, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est un avis personnel, mais qui n'est pas forcément particulièrement éclairé.
Donc je travaille dans le numérique et j'ai un embryon de réponse éventuelle en enseignement supérieur depuis cette année, là seulement, depuis le mois de septembre. On nous demande, je dispense des cours en enseignement supérieur dans le numérique, on nous demande d'aborder le sujet du numérique responsable. Voilà. Donc c'est qu'un embryon, mais ça arrive. Voilà. Merci.
Merci. Donc j'enchaîne sur les pistes. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Selon moi, vous voyez, j'ai mis des petits numéros ici. C'est important de vraiment les considérer dans l'ordre que je propose, parce qu'elles ont une certaine logique et parce que, comme ce que je vous ai décrit sur l'optimisation des systèmes, si on prend les choses dans le mauvais sens, en fait, on ne sera pas du tout au rendez-vous qui sont les rendez-vous écologiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc le premier point sur lequel il y a eu des progrès hein, depuis deux ans, notamment avec la loi Égal récemment, puis il vient d'y avoir une loi sur le numérique qui vient d'être votée. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le premier point, du coup, j'appelle le point zéro, en fait. C'est un peu le préalable à tout le reste. C'est-à-dire, avant de s'engager plus en avant, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. C'est ce que j'appelle rendre visible l'invisible. Tout le poids environnemental, ce que je vous ai décrit un peu en introduction, c'est des choses qui sont très peu perceptibles et tangibles pour les usagers. Or, en fait, il y a plein de domaines sur lesquels on a fait des progrès, on a été capable de donner une information claire aux utilisateurs et aux consommateurs sur le poids ou l'impact environnemental de l'objet qui s'apprêtait à acheter. Pensez aux étiquettes énergie sur l'électroménager. Vous allez en grande surface, en électroménager ou même en ligne. En ligne, ce n'est pas toujours extrêmement respecté. Mais vous êtes censé avoir accès à l'information sur l'étiquette énergie qui est un processus normé qui permet de comparer une machine à laver par rapport à une autre. Vous savez combien de kilowattheures elle va consommer à l'année, combien de litres d'eau. Pour une voiture, c'est la même chose. Et en fait, pour les objets et les services numériques, aujourd'hui, on n'a absolument pas cette information-là. Vous ne savez pas, tel smartphone par rapport à tel smartphone, qu'est-ce qu'il va consommer. Mais comme je vous l'ai dit, l'enjeu, ce n'est pas tant ce qu'il va consommer, c'est qu'est-ce qu'il a consommé pour être fabriqué. Cette information, vous ne l'avez pas. Donc, je reprends sur ces étiquettes énergie et cette information qu'on n'est pas capable de donner aujourd'hui à l'acquéreur d'un produit ou d'un service numérique. Donc, je prends l'exemple du smartphone. Vous voulez renouveler votre smartphone. Vous n'avez pas accès à cette information-là. Ce à quoi vous avez accès depuis quelques mois, c'est l'indice de réparabilité. Vous allez savoir dans quelle mesure le fabricant à adopter des processus d'éco-conception, s'engage à mettre à disposition des pièces, des produits, de favoriser l'ouverture et la réparation de son produit. Donc c'est une première brique d'accès à l'information, mais bon, on n'en est qu'au tout début, selon moi. De la même manière, quand vous... là, on parle d'un produit physique, mais quand vous regardez... 2 heures de streaming sur je ne sais pas quelle plateforme vidéo, ben vous n'avez pas d'idée en fait du poids environnemental de cette heure ou de ces 2 heures de streaming. Et selon les modalités de streaming que vous allez adopter, de la très haute définition, voire uniquement le son, parce que ça peut être en fait vous lancez un truc, mais ce que vous voulez c'est juste l'écouter. Donc récupérer juste la bande son et pas l'image, c'est réduire le volume de données récupérées de plusieurs ordres de grandeur. Ça, vous ne l'avez pas, cet accès à cette information. Il y a Netflix qui vient de publier pour la première fois il y a quelques mois un premier bilan. Alors, ce n'est pas normé, ils ont choisi les périmètres un peu qu'ils voulaient, ils ne considèrent pas les terminaux des utilisateurs dans ce bilan-là, sauf que quand vous regardez un film sur Netflix, vous utilisez bien un terminal, une télé, un smartphone ou une tablette. Ils ont mis, l'ordre de grandeur, c'est 100 grammes de CO2 pour une heure de mémoire. Bon, vous voyez, si on est sur ces ordres de grandeur-là, ça veut dire qu'on est sur à peu près l'équivalent d'un kilomètre parcouru en voiture. Bon, ça montre que c'est pas dingue. Hein. L'idée, c'est pas de dire que c'est la même chose que si vous roulez une heure en voiture. Non, c'est pas du tout ça. Mais ça montre que c'est pas tout à fait rien. Il y a toute une infrastructure, de la conso d'énergie, etc. Et ça illustre le fait qu'on en est qu'au début. Voilà, là, c'est Netflix qui a choisi de mettre ces données-là sur la place publique selon une méthodologie dont ils partagent une partie des éléments. Mais en tout cas, on n'est pas dans un cadre très normé. Et ça, c'est des choses qui sont notamment travaillées avec l'ADEME, l'ARCEP et un consortium NégaOctet qui travaille à l'évaluation et la normalisation de ces processus-là. C'est un projet de recherche en cours. Ça. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Être capable d'objectiver le poids du numérique pour l'utilisateur, pour le consommateur final, et aussi à une échelle plus large, pour avoir des politiques publiques du coup qui soient efficaces. Comment vous voulez qu'on régule correctement le truc si en fait on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il faut agir et avec quel levier agir. Et toujours dans l'idée de regarder les deux faces de la médaille, je pense aussi que dans plusieurs cas, le numérique il peut nous aider à avoir une réflexivité sur le système énergétique, sur nos usages, nos manières de consommer et de produire. Je prends un exemple ou deux très concrets. Les pistes cyclables se développent dans beaucoup de villes de manière considérable. À Paris, notamment, vous avez des pistes cyclables qui sont totalement séparées de la chaussée, sur lesquelles des compteurs ont été placés. Ces compteurs sont ensuite agrégés, vous avez accès aux données en open data sur le site de la mairie. Et vous voyez désormais que sur certains axes, les vélos sont plus nombreux que les véhicules à passer sur certaines avenues et boulevards parisiens. Et c'est ça la réflexivité que je trouve intéressante. C'est quelque part permettre d'objectiver le débat et arrêter de dire « Ouais, mais arrêtez de nous dire qu'on ne circule pas à voiture à Paris ». Évidemment qu'on ne circule pas. C'est bien l'objet, justement, de sortir la voiture de la ville. Mais sauf que là, de toute façon, la voiture, c'est 10% des flux, par exemple, sur cet axe. 50%, ça va être le métro. 20%, ça va être la marche. 20%, le vélo. Et puis la voiture, c'est 10%. Donc vous vous plaignez, mais en fait, vous êtes juste ultra minoritaire à utiliser un mode de transport qui prend 10 mètres carrés, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc oui, vous pouvez trouver que ce n'est pas un choix qui est efficace pour vous, mais en tout cas, collectivement, ça permet de mieux représenter les choses. Et en ça, vous voyez, le numérique est extrêmement précieux, parce que c'est le fait d'utiliser des capteurs sur la chaussée, d'agréger ces données, de les partager en open data. C'est tout ça qui permet d'objectiver un peu les débats et de remettre les choses à leur place et dire, en fait, quand quelque part on contraint la voiture en ville, il faut arrêter de dire qu'on contraint 90% des personnes qui se déplacent. Non, ce n'est pas vrai. C'est les ordres de grandeur, ce n'est pas cela. De la même manière, utiliser la réflexivité offerte par le numérique, ça serait par exemple utiliser mieux le numérique quand on va devoir déplacer, optimiser nos consommations d'électricité par rapport à des pics de production solaire, des pics de production éolien. Aujourd'hui, vous voyez, on interagit très peu avec ce qui se passe sur le réseau. On consomme quand on a envie de consommer. Et en fait, dans un système où on serait plus en lien avec les énergies notamment renouvelables, qui sont des énergies de flux, sur lesquelles il faut en partie s'adapter. Hein. Il faut aussi développer le stockage, mais consommer plus en adéquation avec les ressources. Mais c'est des choses qui peuvent être facilitées par le numérique aussi. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a posé les enjeux, des ordres de grandeur, des impacts environnementaux du numérique, il faut, selon moi, poser des limites au numérique. Je l'évoquais tout à l'heure au début, dans plein de domaines de la vie quotidienne, on a accepté d'avoir des régulations. Par exemple, aujourd'hui, sur autoroute, vous ne pouvez pas rouler à plus de 130 km/h. Bon, vous pouvez dire que c'est contraire à ma liberté. Ouais. Sauf que collectivement, on s'est mis d'accord pour des questions de sécurité. Et demain, ça pourrait être le cas pour des raisons environnementales, notamment de limiter la vitesse plus bas. Sur le numérique, on n'en est pas là aujourd'hui. On est encore dans une posture où, en fait, il ne faut pas contraindre, il ne faut pas limiter, il faut laisser développer les usages partout, tout le temps, mettre des capteurs parce que c'est bien, ça fait partie d'une modernisation qui serait un peu indiscutable. Je pense, moi, que ça doit être beaucoup plus discuté. Là aussi, il y a des choses qui avancent. Il y a eu des propositions d'amendements ou propositions de loi, je ne sais plus, il y a un peu plus d'un an maintenant, de députés de l'opposition qui allaient des Républicains à la France Insoumise, qui proposaient d'interdire les écrans dans les toilettes d'hôtels et de restaurants. Bon, voilà, c'est un exemple un peu anecdotique, mais qui illustre le fait qu'on se pose cette question en se disant quand même, mais à quoi ça concourt ? Enfin, allez, mettre de la publicité partout, tout le temps, et récupérer des données en plus sur l'attention des gens. On l'évoquait tout à l'heure sur l'éducation, mais là, c'est pour du pur marketing, voir comment on est capable de capter l'attention des gens pendant qu'ils vont aux toilettes. Enfin, c'est quoi le projet et le modèle de société derrière tout ça ? Bon, c'est un peu anecdotique, mais ça incarne un petit peu ce débat de dire à un moment, il faut poser des limites. Et de la même manière, mettre des écrans partout dans les gares qu'on refait, est-ce que c'est ça les gares qu'on veut pour demain, qui sont des lieux où on va se déplacer de manière un peu plus soutenable, mais en fait, on est soumis en permanence à des flux publicitaires, donc avec des sortes d'injonctions totalement contradictoires. Consommez, déplacez-vous de manière plus soutenable, mais par contre, consommez. Donc ça, c'est un débat qui est fondamentalement politique. Il n'y a personne qui a la légitimité pour dire il faut interdire ça ou ça. Personne n'a la légitimité tout seul. Mais par contre, je pense qu'il faut essayer de trouver des modalités de décision collective. Les conférences de citoyens peuvent en être un exemple pour poser des limites et inventer des modes de régulation du numérique. Donc ça, c'est ce que j'appelle la sobriété numérique. Le point 2, ensuite, ce que j'appelle transformer le numérique. Une fois qu'on a pris les choses dans cet ordre-là, alors il faut faire du matériel plus éco-conçu. Il faut surtout augmenter la durée de vie des équipements. Comme on l'a vu, le principal poids du numérique réside dans la fabrication des équipements. Donc il faut garder plus longtemps vos équipements, vos écrans, vos tablettes, vos capteurs et tous les objets qui intègrent du numérique. Et ensuite, il va falloir travailler sérieusement parce qu'aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, en France, on récupère à peu près 50% des déchets électroniques. On fait plutôt partie des bons élèves, mais vous voyez que pourtant, c'est loin d'être la panacée. On récupère, ça ne veut pas dire qu'on recycle intégralement derrière. Récupère, c'est juste la première brique. Si on n'a pas récupéré, c'est évident qu'on ne recyclera pas. À l'échelle du monde, c'est 20%. Donc la priorité, vous voyez, c'est vraiment réduire les flux de production, réduire les déchets et ensuite mieux recycler. Sur les logiciels, c'est arrêter de programmer comme s'il n'y avait pas de contraintes sur le matériel, qu'on pouvait toujours faire augmenter les flux de données sans limite, parce que même si on dit que l'impact, ce n'est pas l'usage principalement, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait d'avoir des usages qui rendent le matériel obsolète plus rapidement, bah, c'est bien ça le cœur du problème. Le fait qu'avec des smartphones dont vous installez les nouveaux systèmes d'exploitation, les nouvelles applications, bah, votre smartphone il va ralentir petit à petit. Et donc, le logiciel, les usages impactent bien, in fine, la durée des équipements et des terminaux. Et puis après, ça rejoint un peu ce que je disais sur rendre visible l'invisible. Il y a la question des usages où l'enjeu, ça va être après d'informer les utilisateurs finaux pour lui dire que télécharger plutôt que visionner en streaming, notamment quand on se déplace, c'est beaucoup moins énergivore, qu'utiliser la fibre et le Wi-Fi chez soi plutôt que le réseau cuivre, c'est aussi nettement plus efficace. La 5G sera plus efficace avec le risque que j'évoquais tout à l'heure, qui est que la 5G elle se substitue pas à la 4G. C'est une couche supplémentaire qu'on ajoute et c'est bien ça le problème. Donc on va consommer moins sur le réseau 5G, mais sauf qu'on va pas arrêter les autres réseaux à côté. On rajoute bien des couches supplémentaires. Mais en tout cas, il y a un tas de choses qu'on peut faire. Vous voyez sur les usages pour les rendre plus sobre et efficace eux aussi. Et enfin, dernier point, avant d'en discuter avec vous par la suite, une fois qu'on a fait tout ça, là, on peut vraiment avoir un numérique au service de la transition écologique, selon moi. Vous voyez, mais d'abord, il s'agit bien de réduire, maintenir le poids du numérique. Et ensuite, le numérique qui peut être puissant à plusieurs endroits. Et un exemple que je trouve assez parlant et efficace, c'est le cas du véhicule partagé. Aujourd'hui, en France, il y a 35 millions de véhicules. Ces véhicules sont à l'arrêt 95% du temps. Faites le calcul pour votre véhicule, vous verrez, vous y arrivez. Si vous êtes à moins de 90, c'est que vous êtes un gros utilisateur de voiture, mais en moyenne, 35 millions de véhicules qui font 12 000 km par an. Donc on est sur un capital économique, physique, matériel qui est inutilisé 95% du temps. C'est absurde. Ça ne veut pas dire que la voiture peut être un objet technique qui est super efficace dans plein de situations. Mais juste ce que je disais tout à l'heure, tout le temps, pour tous, partout, ça ne marche pas. Et là, le numérique peut être d'un grand recours pour mieux utiliser les voitures, pour les optimiser. C'est évidemment le covoiturage, mais là, c'est l'exemple de l'autopartage que je veux prendre pour supprimer des voitures, pour enlever des voitures des rues. Partager sa voiture avec son voisin, bon, ça peut se faire, on se passe un petit mot, un petit coup de fil, on dit « tiens, t'es là ce week-end, je voudrais prendre la voiture, je te passe la clé sous la porte, etc. » C'est facile, mais vous voyez que c'est quand même assez limité, que ça va nécessiter une certaine connaissance et confiance. Là où on peut changer d'échelle avec le numérique, c'est que des applications vont vous permettre de partager des flottes de véhicules, de manière beaucoup plus grande. Ce que l'on voit, c'est que les véhicules partagés sont utilisés en moyenne par 10 ménages. Donc ça veut dire que plutôt que d'avoir une voiture par ménage, on va avoir une voiture pour 10 ménages. Vous imaginez un peu le potentiel qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire que c'est possible partout, hein, ce que je disais tout à l'heure, dans des lotissements où il y a une densité trop faible pour partager ses véhicules, où la dépendance de la voiture est quasiment quotidienne, c'est très difficile. Par contre, dans des milieux urbains relativement denses, les villes moyennes, métropoles, etc., où la voiture au quotidien n'est pas indispensable, là, ça peut être des outils qui sont extrêmement puissants. Et en salle numérique, il va vous amener de la confiance, il va vous amener de la souplesse pour avoir accès au véhicule sans clé physique, juste avec une application. Et là, du coup, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, et c'est vraiment le point sur lequel je souhaite terminer, mutualiser et utiliser de manière plus partagée l'ensemble des biens, des produits qu'on a déjà produits, mis sur le marché. Et l'exemple de la voiture, je trouve, il est parlant parce que quand on a ces ordres de grandeur-là en tête, quand même, qu'on achète des voitures qui ont vocation à rester à l'arrêt 95% du temps, bon, évidemment qu'il ne s'agit pas de faire rouler les voitures 100% du temps, mais c'est le modèle économique, par exemple, de l'aérien. Dans l'aérien, un avion ne reste jamais à l'arrêt. On pourrait avoir des logiques beaucoup plus rationnelles, optimales de ce parc de véhicules. Sur le parc de logements, c'est la même chose. Hein. Et sur un tas d'objets courants, c'est la même chose. L'idée d'acheter chacun sa perceuse, sa tondeuse, etc., on voit bien, là, les taux d'inutilisation, ils sont encore supérieurs. Et le numérique, en ça, il peut être extrêmement puissant pour mutualiser et optimiser et utiliser de manière beaucoup plus collective l'ensemble des biens qu'on a déjà produits et qu'on va continuer à produire demain. Voilà pour le propos que je développe dans mon ouvrage, que j'ai essayé de vous présenter de manière un peu synthétique ce matin. Et je vous propose qu'on passe aux questions. Et ça tombe bien, il n'y a plus de batterie en plus.
Je me posais une question par rapport aux solutions que vous évoquez en discussion. Par rapport à l'obsolescence programmée, finalement, de pas mal de ces éléments qu'on achète, d'électroménager, de numérique, etc. Parce qu'en fait, on a un indice de réparabilité maintenant, mais bon, c'est vrai que là, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai dû acheter de l'électroménager et j'ai cherché à absolument avoir le maximum d'éléments pour pouvoir avoir quelque chose qui soit durable, qui tienne le plus longtemps possible, qui soit réparable. En fait, ça reste quand même un parcours du combattant. Et puis derrière, on ne sait toujours pas vraiment s'il n'y a pas un petit peu de trucage. Parfois, s'il n'y a pas un petit peu cette obsolescence programmée des cartes, de certaines choses. Voilà, est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin, effectivement, d'avoir des éléments de réponse pour avoir quelque chose qui tienne longtemps?
Ouais, je vous disais, c'est le tout début. On commence à avoir une information et on aura d'ici quelques temps des premiers retours sur la mise en œuvre effective derrière ces indices, comment concrètement les chaînes de distributeurs vous accompagnent dans la réparation. Il y a des services qui se spécialisent là-dessus, hein, chez les Darty, Boulanger, etc. Où vous avez des comptoirs dédiés à ça désormais. Il va falloir voir en pratique comment ça se met en œuvre. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, c'est juste les prémices. Avoir déjà cet indice, ça permet d'avoir un premier niveau d'information. Et il est probablement critiquable, cet indice, mais un peu comme l'étiquette énergie, il a été fait sur une base consensuelle avec des autorités, institutions indépendantes, les fabricants. Et donc, au final, c'est un consensus entre pragmatisme et puis aussi objectivité de ce qu'on peut produire qui aboutit à ça. Mais c'est juste le début. Donc aujourd'hui, vous en dire plus que ça, répondre aux questions que vous vous posez. Est-ce qu'un produit qui est caractérisé comme avec un bon indice de réparabilité aujourd'hui, dans 5 ans, on sera capable de le réparer et à quel coût, ça va être un sujet central. Parce que pour illustrer ça, vous voyez, en fait, on a des objets qui sont produits en Asie avec des coûts de la main-d'œuvre qui sont en gros 10-20 fois inférieurs au coût de la main-d'œuvre en Europe ou en France. Et on va vouloir réparer dans des zones économiques où ces coûts de la main-d'œuvre sont nettement plus élevés. Donc à un moment, il va probablement falloir penser quand même je ne sais pas si on peut parler de protectionnisme vert ou autre, mais en tout cas des modalités qui permettent un petit peu de corriger ce dumping environnemental ou social, parce qu'aujourd'hui, le système dans lequel on évolue, c'est celui-là, c'est des chaînes de production à l'autre bout du monde, avec une main-d'œuvre qui est... est-ce qu'on peut dire que c'est toujours sous-payé ou pas ? En tout cas, qui est payé absolument pas au niveau de standards qui sont ceux des pays principalement consommateurs. Et du coup, il y a des modalités concrètes de mise en œuvre qui sont des vraies questions qui sont encore devant nous, ça c'est clair.
Je profite de cette question pour vous signaler ce que j'ai appris sur le salon. Il y a un réparateur, quelqu'un qui rénove les batteries de vélo. Et comme j'en ai un, je me suis interrogé. Il se trouve que Bosch, le constructeur, fait en sorte que si on ouvre la batterie, ça détruit le logiciel qui l'a fait fonctionner. Donc là, il y a bien une contrainte à porter pour que les fabricants permettent la réparabilité. Et là, c'est l'inverse. Ils interdisent ça. Donc là, c'est une marge de progression parce que c'est vrai que si on peut rénover la batterie, ben on fait l'économie, comme ça a été dit, de la matière délicate qui a été mise en œuvre. Et si on peut la recharger pour un cycle de vie nouveau, c'est nettement mieux. Donc il y a vraiment des obstacles juridiques et économiques à franchir, effectivement, à ce niveau-là.
À beaucoup d'endroits aussi, vous avez maintenant des repair cafés qui sont mis en place par des associations, des institutions ou autres, et qui concrètement visent à un peu dépasser ces limites marchandes que j'évoquais là. L'idée, c'est de dire qu'avec des gens qui sont intéressés par le bricolage des objets numériques, qui ont juste une vraie passion pour ça, bah, permettre de démonter, de changer un truc qui est facilement changeable, alors que si vous allez vous inscrire dans les... notamment quand votre smartphone n'est plus garanti, alors que si vous passez dans les circuits classiques, on va vous expliquer que ça coûte plus de 200 € pour changer un écran parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête avec ça et qu'ils préfèrent vous revendre un smartphone à 400 €. Donc il y a ces réseaux-là de repair café qui sont soutenus par notamment l'ADEME, mais souvent les collectivités territoriales et autres, vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour avoir un premier accès et un premier accès à un niveau de connaissance et d'expertise souvent intéressant.
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est qu'en fait, tout ça, ça pose juste la question en fait, du modèle économique. Parce que la réalité des choses, c'est que, je ne sais pas, moi, je vous donne mon exemple de ma machine. Ma machine que j'avais avant, elle a tenu 23 ans. Là, je vais en racheter une et Darty me dit, de toute façon, c'est 15 ans. Voilà, 15 ans, la limite de réparabilité. C'est-à-dire que déjà, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin que 15 ans. Ça veut dire qu'effectivement, ça renouvelle. Alors certes, c'est déjà pas mal, mais en fait, ça veut dire que l'idée, c'est quand même de renouveler plus régulièrement son matériel. Comment ça se fait qu'on n'est plus capable de faire des choses qui durent 20 ans, 25 ans, etc. Donc c'est aussi un peu un problème entre les associations locales, les gens, la bonne volonté des gens qui vont essayer effectivement d'augmenter cette réparabilité, et puis des gens qui veulent gagner de l'argent et qui du coup vont au contraire chercher quand même à diminuer cette réparabilité. Et là, je dirais, s'il n'y a pas une volonté politique quelque part, je ne vois pas comment on peut réussir à imposer à ces entreprises de dire non, il faut que ça dure plus longtemps maintenant. Vous voyez, c'est un peu...
Alors, il y a la dimension de politique et du régulateur, le rôle politique et du régulateur qui est évidemment crucial. Sur ces questions quand même de on va dire d'évolution un peu structurelle, il y a des collectifs d'acteurs aussi. Vous avez par exemple l'association HOP, Alta Obsolescence Programmée, qui fait un gros travail de lobbying, d'action en justice notamment, en regroupant, un peu dans les logiques de class action américaine, en regroupant des consommateurs qui considèrent qu'ils ont été trompés sur le produit, sa durabilité, réparabilité, etc. Et donc les choses se jouent à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, ce sur quoi je veux insister, ce n'est pas pour déresponsabiliser le régulateur, mais c'est de dire, en fait, si j'en reviens au smartphone, si les gens changent de smartphone aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont cassés. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils veulent avoir le dernier smartphone. Alors, est-ce que c'est la faute aux fabricants et aux publicitaires qui vous abreuvent de publicité et de nouveaux modèles tous les 6 mois ? Est-ce que c'est la faute aux citoyens qui... sont pas capables de résister à ces injonctions publicitaires? Est-ce que c'est la faute au régulateur qui n'est pas suffisamment contraignant sur la mise sur le marché de nouveaux modèles? Il pourrait dire, vous mettez un nouveau modèle sur le marché, je pense que ça fait partie des pistes qui sont vraiment à creuser, vous devez avoir à minima 10% de matière recyclée dans votre équipement. Comme par exemple sur les futures maisons, il y a un label autour des matériaux biosourcés qui vont être intégrés. De la même manière, on peut poser des seuils comme ça sur l'intégration de matériaux recyclés ou des parts de matériaux recyclables dedans. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, voilà, pour insister sur le fait qu'il y a des choses qui sont à faire du côté des régulateurs, il y a des choses aussi qui bougent parce qu'il y a des forces citoyennes qui s'organisent et qui sont capables de faire émerger de nouvelles attentes. On peut envisager que dans quelques temps, les Samsung, Huawei, Apple communiquent sur autre chose que mon smartphone, c'est celui qui a le plus de capteurs photo, qui a le plus gros capteur photo. Mais mon smartphone, c'est celui qui est le plus soutenable parce que moi, je m'engage sur tel minéraux, à travailler sur des filières commerce équitable, à travailler sur des produits recyclés. Et voilà, pour ça, on peut sûrement pas attendre uniquement la bonne volonté des fabricants. Il faut qu'il y ait des forces de pression qui viennent de différents endroits. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que du côté du régulateur. Voilà, il y a des cité l'association Hop, par exemple, qui fait un travail de lobbying intéressant là-dessus et qui peuvent amener à bouger un peu plus rapidement. Et juste deux mots sur la durée de vie des produits qu'on raccourcit. Là où c'est pas évident de dire qu'il faut toujours allonger la durée de vie, c'est que sur les exemples que vous prenez, par exemple, d'électroménager, quand on fait des analyses de cycle de vie sur un réfrigérateur, en fait, il y a eu des gains qui ont été tels ces dernières années qu'en gros, au bout de 2 ans, vous aviez intérêt d'utilisation de frigo inefficace, vous aviez intérêt à changer pour un frigo plus efficace. Les gains d'énergie associés étaient tellement importants. Alors ça veut dire qu'une fois que ces gains ils ont été rattrapés, après c'est terminé. Après, il faut arrêter d'encourager au renouvellement. Mais sur certains objets, notamment l'électroménager, entre les générations, on a des gains qui sont tellement importants. Vous voyez, votre machine de 23 ans, elle a été amortie sur une très longue durée. Ça, c'est super intéressant. Par contre, il est probable qu'avec votre nouvelle machine, vous consommiez mais énormément moins d'eau et d'électricité par cycle que sur la précédente. Et du coup, le bilan, en fait, c'était l'objet d'un papier qu'on avait écrit avec un collègue il y a une dizaine d'années pour Futurible, où on comparait différentes analyses de cycle de vie en montrant qu'en fait, on ne pouvait pas avoir un message systématique en disant « il faut toujours prolonger la durée de vie » ou « il faut toujours raccourcir ». Bon, mais là, je vous amène de la complexité et vous voyez bien que du coup, pour avoir un message clair pour le consommateur, c'est pas évident. Et là, c'est en ça que le régulateur a un rôle important. C'est trouver des mécanismes et des politiques publiques adaptées aux produits selon là où se situe l'impact environnemental.
Bonjour. Oui, c'est sur ce que vous avez dit avec la question précédente. Ça m'amène à ma question, donc justement à moi. Quel est le vrai prix d'un smartphone, d'un écran d'ordinateur, quand on sait, comme vous avez dit, que le coût de la main-d'œuvre est 10 à 20 fois moins cher en Asie, quand on sait les conditions et les conditions dans lesquelles travaillent les gens qui extraient les minéraux, les terres rares, les coûts environnementaux sur l'eau et enfin sur tout cet environnement d'extraction pour fabriquer les produits, pour extraire les minéraux, pour fabriquer ensuite les objets. Si tous ces coûts-là étaient pris en compte, quel serait le vrai prix d'un smartphone ou d'un écran, quand on sait que même la marque qui est la plus éthique entre guillemets sur les smartphones, Fairphone, est quand même nettement plus cher qu'un Samsung ou un Apple ou autre, et que tous ces composants ne sont même pas tous éthiques ou tous responsables. Donc est-ce que les coûts sont extrêmement minorés pour avoir, nous, occidentaux, avoir des produits de qualité et pas très chers? Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être pris en compte dans l'avenir et qui peut être par le régulateur ou d'autres manières, sur une autre façon, qui peuvent être amenés sur la table sur ces questions-là.
Alors, quel serait le vrai coût? Je ne suis pas capable de vous répondre.
Si on produisait avec la main-d'œuvre, par exemple française ou américaine, un iPhone à 1 500 €, l'iPhone vaudrait 80 000 €. Si vraiment on devrait le produire comme il faut, avec les matières, au lieu que ce soit un petit enfant qui récupère les matières premières, que c'est pas bien, si vraiment on devait tout faire comme il faut, un iPhone, ça serait 80 000 €.
Cette étude, qui c'est qui l'a faite?
J'avais entendu dire ça comme ça. Et voilà, si ça devait être des Français ou des Américains qui extraient le minéral, qui produisent, qui fabriquent, si on devait tout respecter comme il faut, ça serait de l'ordre de 80 000 euros. Les 1500 euros de technologie dans un iPhone, c'est même pas encore le prix, quoi. C'est hallucinant.
Ouais. Bon, je n'ai pas connaissance de cette étude, mais il y a deux choses dans cette partie-là. Il y a ce qu'on peut appeler du dumping social et environnemental, le fait de faire travailler des enfants, le fait de ne pas respecter des normes d'exploitation minière qui sont les normes, par exemple, qu'on a en Europe ou en France. Ça, c'est des choses qu'il faudrait compter. C'est du dumping social et environnemental. Après, aujourd'hui, à mon sens, on ne peut pas considérer non plus qu'il n'y a pas un savoir-faire qui est acquis dans ces pays-là, par les travailleurs, par les fabricants au sens large. Et du coup, ils ont une compétitivité sur certaines filières, comme en France, on sait faire plutôt bien des avions, pour être un peu trivial, hein, par rapport à un pays d'Amérique latine qui n'a pas d'industrie aéronautique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi un vrai savoir-faire qui fait que certaines zones économiques sont plus compétitives. Donc, il faut faire la part des choses entre les deux. Il y a du dumping social et environnemental, et puis il y a des vrais savoir-faire qui sont liés à des effets d'échelle, à de l'industrialisation, etc. Et après, la logique d'intégration de l'ensemble des coûts, on se rend compte que c'est d'une complexité dingue, notamment parce qu'on a des équipements qui sont beaucoup plus complexes qu'il y a quelques années. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, en fait, sur le climat, avec la taxe carbone. On tarifie le niveau d'émission de CO2, mais ce coût-là, pour pointer ce qu'on peut faire politiquement et aussi la limite de ça, aujourd'hui, quand vous faites votre plein d'essence, vous payez votre carbone à la station ou quand vous utilisez votre chaudière gaz, 45 euros la tonne de CO2. Un industriel paye 60 euros la tonne de CO2. C'est une taxe pour vous, donc c'est défini par le régulateur. Sur le marché européen, c'est un prix de marché en fonction de l'offre et de la demande de CO2. Mais vous voyez, ce n'est pas la nature qui envoie une facture en disant « là, moi, on a dépassé le seuil, maintenant c'est 60 euros, maintenant c'est 100, maintenant c'est 1000 ». Et donc, il y a une dimension fondamentalement... il y a de l'anthropocentrisme là-dedans, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce que nous, on va considérer comme étant un coût environnemental. Et ça, c'est éminemment politique et discutable. En fait, est-ce que le changement climatique qu'on veut limiter, c'est 1,5, c'est 2 degrés, c'est 2,5 ou c'est 3? Et en fonction de tout ça, le coût du carbone, il va être fondamentalement différent. Bon, voilà, donc pas de réponse absolue. Moi, je ne connais pas l'étude que monsieur évoquait, regardez peut-être ça. Mais il y a des difficultés méthodologiques intrinsèques, et puis il y a des, il y a des choses qu'on est capable d'objectiver dans les institutions, les rapports de force qui existent. Une heure de travail d'une personne, eh bien, on choisit que le minimum, c'est ça, par exemple, que son savoir-faire, c'est ça. Et puis il y a des choses qui sont sujettes encore à des travaux de chercheurs, d'institutions, etc., parce que c'est difficile d'évaluer les coûts environnementaux, quoi. J'ai pris l'exemple du CO2, hein. Prenons l'exemple sur ce qu'on appelle les ressources abiotiques, l'indium par exemple, ou des ressources qui ne se renouvellent pas, qui sont des ressources minérales. Une fois qu'on les a utilisées, sachant qu'on n'est pas capable de les recycler aujourd'hui, ça veut dire qu'elles sont perdues définitivement pour les générations futures. C'est quoi le coût de ça, quoi ? Moi, je ne sais pas dire, c'est juste une ressource qu'on s'est définitivement appropriée et qu'on a rendue inutilisable pour les générations futures. Donc voilà, je pense qu'il y a des limites aussi économiques, c'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas forcément toujours chercher à tout monétiser et rendre tangible en termes d'euros sonnant et trébuchant, mais il y a des choses qui sont des questions d'éthique et qui se placent sur d'autres champs, quoi.
Je vais changer un petit peu orienter sur l'entreprise. Je me posais des questions par rapport à la dématérialisation des factures, ce qui, à horizon 2024, notamment, on a des obligations. Et je voulais savoir quels sont vos conseils par rapport à la dématérialisation et aussi par rapport au, quels seraient les conseils pour aussi optimiser l'archivage dans les entreprises, surtout le numérique, parce que finalement, il n'y a pas tellement de recommandations disponibles.
Le conseil, moi, je peux vous répondre que de manière mais peut-être trop générique, du coup, c'est de dire, en fait, il ne faut pas présupposer que, quelle que soit la solution numérique qu'on va adopter, elle est meilleure que la solution qu'on avait précédemment. C'est ce que j'évoquais rapidement au début, en mettant un peu la controverse, feuille de papier versus terminal numérique. Donc je pense qu'idéalement, il faudrait que les structures, entreprises, institutions qui s'engagent et qui font ce travail-là soient capables d'objectiver les gains de leurs solutions retenues. En gros, selon le modèle qu'on va choisir, soit on met tout dans le cloud, soit on a des data centers qui sont localisés, précis, ou du stockage physique. Mais c'est quoi les atouts et les limites de ces différentes solutions? C'est quoi les vertus et les limites environnementales? Mais vous voyez qu'on peut avoir des solutions qui sont extrêmement diverses. Et pour illustrer très concrètement pourquoi en fait c'est pas possible de répondre dans l'absolu et de vous dire cette solution elle va être toujours bonne, si vous choisissez de stocker dans un data center en Chine ou même aux États-Unis par exemple, vous avez un data center qui va fonctionner avec une électricité qui émet entre 500 et 800 grammes de CO2 par kilowattheure. Si ce data center il est en Norvège ou en France, parce que vous avez des mix en France majoritairement nucléaire, hydraulique et éolien, donc quasiment intégralement décarboné, vous émettez de l'ordre de 50 à 60 grammes de CO2. Donc vous voyez, juste avec cette composante-là, la consommation électrique du data center, vous avez un facteur 10 sur l'impact CO2. Du coup, voilà pourquoi je ne peux pas vous dire il vous faut à tout prix stocker de telle manière dans un data center situé là ou là, ou justement pas dans un data center et dans le cloud, mais physiquement sur site. Parce que et du coup, vous allez renouveler votre infrastructure tous les combien? Est-ce que vous êtes capable de la recycler ou pas? C'est des questions qui sont devant nous, quoi. Mais je pense que le principe à retenir, c'est les prestataires avec lesquels vous allez travailler, doivent être capables de répondre à la question pourquoi cette solution elle est plus intéressante? Comment vous m'objectivez ce bilan-là? Mais l'idée de dire on dématérialise, c'est mieux, ça c'est faux. C'est vraiment le truc duquel il faut sortir.
Moi j'ai une question, je suis peut-être un petit peu hors sujet, mais je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de vous intéresser à tout ce qui était crypto-monnaie, notamment le système de la blockchain, en termes de consommation d'énergie. Parce que j'avais entendu quelques éléments qui me laissaient penser que c'était très énergivore, mais je ne maîtrise pas le sujet.
Ouais, non, ce n'est pas des choses que j'ai regardées en détail. On a pour le moment plutôt des choses qui nous remontent le fait que c'est très énergivore, effectivement, parce qu'on a une démultiplication des modalités de vérification, en fait. Ce qui permet d'avoir une monnaie décentralisée, hein, c'est qu'il n'y a pas un endroit où on vérifie le truc, mais qu'on a une décentralisation de la vérification. Et c'est cette décentralisation qui est énergivore, mais je ne l'ai pas travaillé plus que ça. Donc, outre les questions, ça rejoint un peu le sujet tout à l'heure, les questions quand même démocratiques, fondamentales, à quoi tout ça sert, quoi. On peut penser que les monnaies elles sont discutables dans leur modalité de gestion, que les banques centrales... En tout cas, c'est des institutions sur lesquelles on a plus ou moins la main. Là, les crypto-monnaies, c'est des choses sur lesquelles personne n'a la main, qui aujourd'hui me semble servir surtout à de la spéculation plus qu'autre chose, et qui semblerait avoir un poids quand même assez significatif. Mais voilà, à part ces éléments assez macro que j'ai vus, je pense que c'est des choses qu'il va nous falloir regarder, évaluer rapidement. Un point là, sur cette difficulté-là, on est vraiment sur des dynamiques nouvelles qui sont exponentielles, et c'est ce qui rend l'évaluation de ces sujets-là très difficile. C'est qu'entre le moment où on commence une étude et où on la finit, les volumes de données, les flux ont été multipliés par 2, par 10, et on se retrouve un peu à courir après l'état du système pour apprécier un peu l'impact environnemental. Mais pas plus que ça.
Je reviens à une question qui n'est pas forcément matérielle, je suis désolé, mais ça m'amène une réflexion, c'est que on parle du régulateur, on parle du consommateur, mais bon, ou du citoyen, mais je pense que le régulateur a un rôle important au niveau politique. Et en fait, moi, ce que ça m'amène à penser, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans une espèce de fascination psychologique de la société sur toutes ces technologies, que ce soit numérique ou matériel, hein, comme l'iPhone ou la pixelisation maximale d'un téléphone. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Vous travaillez avec l'ADEME, je crois, c'est ça? C'est comment
on peut... Je travaille au sein de l'ADEME.
Au sein de l'ADEME, oui, donc c'est carrément au sein. Voilà, d'avoir un peu plus de scepticisme, quoi, en fait, du coup, d'un point de vue philosophique, justement, pour. Et peut-être faire venir au sein de ces institutions-là des gens qui sont à la pointe technologique pour qu'ils aient un regard critique sur leurs congénères, quoi. Hier, j'entendais à France Inter une personne qui est à la fois chercheuse, je ne sais plus son nom, et à la fois entrepreneuse, par exemple, et qui avait un discours hyper intéressant pour dire ce qui était effectivement positif. Typiquement, là, en Israël, ils ont trouvé une technologie avec l'intelligence artificielle pour détecter 2 ans avant le cancer du sein, avec des signaux faibles. Donc c'est quand même super précieux. Et de l'autre, en même temps, elle savait très bien démonter tous les arguments, crypto-monnaie, tout ça. Donc voilà, ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'avoir dans les instances régulatrices une révision un peu de gouvernance pour avoir un peu les gens qui sont à la pointe de la technologie pour avoir à la fois ce côté innovant et à la fois sceptique, quoi.
Alors, il y a France Stratégie. J'ai perdu l'ancien nom de France Stratégie. C'était le commissariat au plan, enfin, voilà. Qui mène actuellement une réflexion sur l'Internet des objets. Et j'ai été auditionné du coup dans ce cadre-là récemment. Et on discutait justement des modalités de gouvernance en lien avec les dynamiques qu'on évoquait. C'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer quelque chose qui a une dynamique qu'aucun autre secteur de la société connaît comme tel. Hein. Donc il faut avoir en tête qu'on est en permanence en retard. Qu'on est sur des sujets qui sont d'une complexité technique quand même considérable. En gros, personne individuellement est capable de comprendre l'intégralité du système qu'on a créé. Hein, ça. Il y a un bon papier de Sylvestre Ruet, journaliste scientifique, qui décrivait ça au temps de l'encyclopédie de Diderot. On avait des savants qui étaient capables d'embrasser l'ensemble de la connaissance du monde. En fait, aujourd'hui, on a créé ensemble une telle complexité technique que personne n'est capable de faire ça. Du coup, ça veut dire qu'il nous faut des lieux d'expertise collective. Et où, donc parmi les choses qu'on évoquait dans la discussion là, avec France Stratégie, c'est où on a aussi le citoyen, le profane qui est présent. Parce que très souvent, il permet de décentrer le regard, de dire l'expert te dit que les choses vont être comme ça et comme ça, mais en fait, en pratique, c'est pas ça les contraintes que les gens scoltinent au quotidien, c'est pas ça qu'ils souhaitent faire. Et surtout, politiquement, c'est quoi le projet de société dans lequel ça s'inscrit, quoi. Est-ce que c'est juste rajouter des objets connectés partout ou est-ce que c'est d'essayer de transmettre un écosystème à peu près soutenable aux générations futures? Donc il y a très clairement des questions de gouvernance qui se posent. C'est ce qu'on appelle un peu la démocratie technique. Et la conférence citoyenne sur le climat est, selon moi, une première piste intéressante qui est inaboutie parce qu'on n'a pas assumé comment ce qu'elle produisait allait s'inscrire dans les institutions, dans les cadres politiques existants, notamment le Parlement, etc. Mais je pense que des collectifs, des forums hybrides comme ceux-là sont essentiels, notamment sur le numérique. Et dans la discussion, un point qu'on évoquait, c'est notamment le fait de les rendre pérennes. Pas forcément toujours avec les mêmes gens, mais en tout cas de dire en permanence, on va avoir des gens qu'on sera capable de mobiliser, à la fois avec des experts, mais aussi des profanes, des citoyens tirés au sort, qu'on rémunère pour ça, parce que c'est du travail, de poser des questions, de questionner les chercheurs, les spécialistes d'un sujet, de leur faire croiser leurs réflexions. Et on va être capable de les associer au fil de l'eau. Et ce fil de l'eau est essentiel parce qu'il faut avoir une réactivité. Vous voyez, si à chaque fois on prend un an pour monter le truc, entre le moment où on s'est posé la question, où on les réunit, on est déjà en retard d'un wagon et tout. Mais c'est clair qu'on est face à des difficultés fondamentalement nouvelles de régulation, ces secteurs-là, et qu'il nous faut penser des institutions et un cadre de discussion et de régulation fondamentalement nouveau, quoi. Mais le risque étant vraiment de créer de la déception, et c'est un peu ce qu'on a vu avec les conventions citoyennes. Hein. On fait travailler des gens. Tous les experts qui ont participé au processus disent que ce qui est produit est d'une qualité quand même importante pour des gens qui n'y connaissaient rien, entre guillemets, ou en tout cas pas plus que la moyenne qu'un citoyen lambda avant d'arriver. Donc c'est prometteur à plein d'égards, mais il faut plus objectiver ce qu'on attend, comment ça s'inscrit dans le cadre institutionnel actuel. Quoi.
D'abord, merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans le numérique et plus principalement sur LinkedIn. Et je m'interroge énormément sur l'impact écologique de nos publications sur les réseaux sociaux. Alors, je sais, j'ai cherché sur Green IT, enfin, j'ai cherché beaucoup. Je n'ai pas trouvé de réponse parce que visiblement, les gros Américains LinkedIn, Facebook et compagnie ne publient pas là-dessus, mais je voulais avoir votre impression là-dessus. Merci.
C'est le premier point que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il faut que les mastodontes du numérique sortent du discours de façade. Oui, on a des data centers qui fonctionnent en renouvelables. C'est pas ça le sujet, quoi. C'est qu'une petite partie du sujet. Donc il faut. Mais là, le régulateur a un rôle crucial. Hein. Il y a notamment des rapports de force à établir. En Europe, on est une des premières zones économiques solvables au monde. Donc l'idée de dire vous vendez sur cette zone-là, vous donnez des informations sur les produits que vous vendez, leurs conditions de fabrication, leur efficacité, etc. Et il y a ce cadre qui est à poser. C'est ce qui doit être en partie fait avec l'ARCEP et l'ADEME sur le baromètre vert, avec à la fois les fabricants, mais aussi les réparateurs, enfin tous les gens de la sphère numérique. Et il y a un travail au long cours qui est fait avec, j'évoquais le collectif Néga Octet, où on travaille à des méthodologies un peu de formalisation, parce que comme je le disais, Netflix vient de dire « mon heure de streaming, c'est 100 grammes de CO2 ». En fait, il n'y a pas grand monde qui sait expertiser ce chiffre-là aujourd'hui. Si ce n'est de le mettre en perspective avec d'autres trucs qui font 100 grammes de CO2, on ne sait pas dire si c'est vraiment ça ou s'il y a un problème d'ordre de grandeur. Donc il y a un travail méthodologique qui est en cours. On va dans le bon sens, et pour illustrer ça, il y a quelques semaines, on a publié, ça ne répond pas vraiment à la question réseau social, mais sur un événement numérique, on a réalisé les assises de l'économie circulaire en physique et en mode intégralement numérique. Et on a publié les impacts associés, avec notamment des gens de Green IT qui étaient dans le collectif. La version intégralement numérique, elle est meilleure presque sur tous les plans, sauf sur la consommation de matières non renouvelables que j'évoquais tout à l'heure. Et du coup, ça, on voit bien à quel point ça rend la question complexe, c'est-à-dire que c'est meilleur sur tous les plans, mais est-ce que l'attention des gens et la qualité d'échange est aussi intense avec un événement intégralement numérique qu'avec un événement physique? Ça, c'est pas apprécié. Mais en tout cas, on commence à poser des éléments qui permettent d'objectiver et de voir les écarts entre le fait de déplacer des milliers de personnes qui viennent des quatre coins de la France, notamment en avion pour certains, et puis le fait de tout organiser en distance. Donc, on avance, mais c'est sûr qu'on n'est pas à un niveau d'information idéal, ce que moi, je considère quand même comme très paradoxal, parce que le numérique, c'est quand même la sphère où on connaît tout de vos pratiques, de vos usages de consommation. Vous recherchez un truc sur un moteur de recherche, vous tapez de la publicité ciblée pendant des dizaines de jours avec les cookies sur ce sujet-là. Et par contre, on n'est pas capable de vous dire votre smartphone, dans quelles conditions il est fabriqué, quel est son impact environnemental précisément, etc. Donc, c'est quand même un gros paradoxe que ce décalage entre l'information qu'on a sur les sujets environnementaux et le traçage permanent que les outils numériques permettent d'avoir sur nos pratiques et usages, quoi.
Voilà, bien, on va remercier donc Éric Vidalenc pour son intervention. Donc je rappelle le titre de l'ouvrage, donc pour une écologie numérique. Vous pouvez vous le procurer donc aujourd'hui sur place, et puis en librairie après, en librairie, pas à distance avec d'autres fournisseurs que je ne nommerai pas. Édition Les Petits Matins. Et puis aussi, t'as tout juste, quand on aime bien souligner aussi les petits gestes du quotidien. Donc sur le numérique, vous aussi, si vous avez des messageries, vous avez aussi des bonnes pratiques. À savoir, par exemple, ne pas mettre en copie ouverte quand vous envoyez à 15 personnes quelque chose, qui n'ont pas forcément tous à savoir la même chose, et répondre à tous. Ça fait de la consommation. Et puis vider vos boîtes mail aussi, ça fait partie des petits gestes. C'est sans doute plus important même que fermer l'eau du robinet quand on se lave les dents. Mais ce geste-là, très souvent aussi, il est oublié. On dit, j'ai de la place, j'ai un gros disque dur, je peux bien mettre tout ça, mais il faut savoir que de l'autre côté, il y a les data centers, comme ça a été bien expliqué, qui sont discrets pour vous, mais qui sont coûteux en énergie. Et ces petits gestes-là, il faut que les uns les autres les privilégient par rapport à envoyer plein de mails à tout le monde et puis qu'ils répondent à tout le monde. Je ne viendrai pas demain, mais oui, on s'en fout. Il y en a 140 qui viennent et ce n'est pas le problème. Voilà. Merci de votre attention et puis bon salon et merci encore à Éric Vidalenc pour son intervention.